Sur Radio Valois-Mulsien, page d'histoire. Jean-Marie Pelt nous raconte les plus belles histoires de plantes. Avec lui, nous jetons un œil dans le jardin de son père et nous faisons connaissance avec deux plantes. La plus gentille, la plus rusée. Accrochez-vous! Le jardin de mon père. Petit, je croyais être né dans un chou. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas tout à fait sûr d'être né autrement. C'est qu'en effet, le jardin de mon père hante mes rêves et ma petite enfance se projette dans un autre rêve, celui que les hommes conservent confusément de leur origine, du jardin d'innocence de ce jardin d'Éden, où ils virent le jour à l'aube de l'histoire. Issus d'une longue lignée de jardiniers attachés, dans la meilleure tradition lorraine, aux maîtres de forge des vallées sidérurgiques, mes études de pharmacie me conduisirent naturellement à la botanique. J'esquivai promptement l'officine, lui préférant prairies et forêts, où j'adorais appeler chaque fleur par son nom. Plus tard, les jardins de Candy et de Bangkok, de Singapour et de Bali, de Kaboul et d'Ispahan, de Tenerife et de Marrakech ponctuèrent ma vie d'autant de merveilleuses parenthèses où le bruissement des fontaines et des sources, le gazouillis des oiseaux et la splendeur des fleurs m'arrachaient au trop bruyant commerce des hommes. Mon laboratoire universitaire ne fut que le prolongement entre quatre murs de ce jardin où, dès l'enfance, j'avais solidement plongé mes racines. Vint cependant un jour où, à l'instar de nos premiers parents, je fus arrachée à la contemplation de ce jardin par les urgentes et écologiques exigences de la ville de Metz, dont le patrimoine historique était gravement menacé par l'urbanisme inhumain des années 60. L'on me pressa de comprendre que mon devoir m'y appelait. Je fis donc ce que me dictait ma conscience. Ce fut un déchirement, une rupture dans une trajectoire jusque-là sans obstacle. Après avoir gratté la terre, il allait désormais falloir, en tant que maire adjoint, gratter la pierre, harmoniser la pierre blonde des grands monuments avec le lacis des rivières et des canaux et avec la verdure généreuse qui font l'âme de cette ville. Déraciné de mon univers végétal, et tandis que je m'employais obstinément à transformer Metz en jardin, je me transformais moi-même en urbain, ce dont il me faudra bien un jour me remettre. Mais je continuai à chercher la compagnie des botanistes et des jardiniers, car ils étaient doux et sans malice, comme mon père et comme mes maîtres l'avaient été. Dès ma petite enfance, j'avais éprouvé une profonde connivence avec les plantes et les fleurs dont mon grand-père peuplait ses couches. Nos rencontres et nos échanges étaient ma manière à moi de garder une certaine distance vis-à-vis de ces animaux quelque peu inquiétants, ceux de ma propre espèce dont je pressentais que le commerce pouvait n'être pas sans quelque désagrément. Engagé à présent sur la scène publique, je découvrais non sans étonnement, dans l'observation des fleurs, des arbres et des herbes, le fonctionnement des lois et processus qui président également à l'organisation des sociétés humaines. Insensiblement, je me rapprochais des plantes comme elles se rapprochaient de moi. Je ne les voyais pas comme on les voit, esthétiques, décoratives ou utilitaires, car je ne les voyais pas pour moi-même, mais j'essayais de les percevoir en elles-mêmes et pour elles-mêmes, de mieux saisir les ressorts de leur propre vie, me souvenant qu'elles doraient déjà leur corolle au soleil, depuis plus de 100 millions d'années, lorsque, dernier venu dans l'échelle de la création, l'homme parut. Sans même que j'en prisse conscience, il en résulta une vision du monde végétal que d'aucuns ont pu considérer comme originale. J'avais pris l'habitude de parcourir d'une autre manière mon jardin pour y découvrir, dans les fleurs que j'aimais, des mœurs et des comportements qui sont aussi les nôtres. La vie s'unifiait à mes yeux en toutes ses créatures et en tous ses attributs. Je me sentais née et nourrie en son sein, soumise à ses lois et à ses exigences, comme la plante ou l'animal, mes amis. J'espérais bien la traverser en contemplatif amoureux, sans trop avoir à subir de la part des hommes, et moins encore à devoir leur faire subir les contraintes et pressions que les forces de compétition et d'agression exercent universellement sur tous les êtres vivants. Je ne rêvais que de solidarité et de coopération, celle précisément que j'observais dans les relations des insectes et des fleurs, relations quasi amoureuses qui assurent, par le jeu de la pollinisation, la pérennité de la vie végétale. Mais la vie devait en décider autrement. Je n'échappais point aux communes exigences de l'appartenance à mon espèce, comme avait tenté de le faire mon père, en se réfugiant, sa vie durant, au fond de son jardin. Affaibli par une série de trahisons, de deuils et d'abandons, je découvris la mort, la solitude, la précarité de notre condition. C'est alors que je dus subir, conformément à la logique de la vie, l'agression brutale de compétiteurs dans lesquels je n'avais vu jusque-là que des amis. Mûri et instrui par les preuves, je me sentis d'autant plus solidaire de l'arbre, étouffé par la sauvage luxuriance de ses voisins, de l'herbe mal exposée et s'étiolant de chlorose. Ainsi, monta en moi une nouvelle estime et une profonde pitié pour toutes les créatures. Estime et pitié qui sont à mes yeux les attributs éternels de l'amour. Laborieusement, je m'échappais des dichotomies sommaires et des jugements simplificateurs, intégrant ce qu'on appelle communément le mal à ma vision du monde. J'assimilais la fleur lumineuse et le chien fidèle à mon propre corps. Je déplorais que la tradition chrétienne qui m'avait nourri et dans laquelle je puisais mes raisons d'exister eût fait si piètre cas de la dignité des créatures, si promptement reléguée, lorsqu'elle semble inutile, au rang de sale bête ou de mauvaise herbe, autrement dit, de nuisibles qu'il faut absolument détruire. Et je déplorais plus encore qu'il eût pu en être de même des humains en fonction de leur couleur, de leurs croyances ou de leurs idées. Je m'effrayais en quelque sorte, à titre posthume, que notre pauvre corps eût pu faire l'objet d'un mépris analogue. Les ascètes que j'admirais jadis, voici que je les trouvais étrangement cruels envers cette pauvre chair qui appartient pourtant à l'étoffe de l'univers et qui mérite à ce titre respect et considération. Qui vit jamais l'orgueilleux esprit humain, épris de lui-même et tout gonflé de son importance par des siècles d'autosatisfaction proclamée, errer sans être d'abord arrimé à un corps? Je m'aperçus alors que je commençais à sentir et à voir comme un Indien. Il me paraissait évident que dans la nature, tout est cohérent, tout se tient, tout fait corps. Les calculs d'apothicaire par lesquels on prétendait méticuleusement comptabiliser le bien et le mal, séparer les idées et la matière, la chair et l'esprit, la pensée et l'action, me parurent dérisoires et je trouvais l'homme bien téméraire de s'arroger ainsi le droit de régenter et de disséquer à sa guise, au gré de concepts qui n'appartiennent qu'à lui, l'œuvre de Dieu. Tant d'entraves nuisant à l'épanouissement et à la liberté des créatures me paraissaient insupportables. Je me trouvais tantôt dans la peau d'un Indien, disais-je, tantôt dans le regard d'un François d'Assise qui aima les créatures dans leur infinie diversité, au grand étonnement de ses contemporains, et je sentais s'opérer lentement, à la faveur de ce changement de paysage intérieur, une nouvelle synthèse. Chaque être, du virus jusqu'à l'homme, malade ou bien portant, faible ou fort, me paraît un autographe de Dieu. Aussi, la nature tout entière est-elle sacrée. À qui sait lire ces signes, elle révèle les lois immémoriables du fonctionnement de l'univers. L'appréhender, la contempler, la comprendre, voilà notre mission si nous voulons nous comprendre nous-mêmes. Point n'est besoin de la posséder. L'universel appartient à tous et nous lui appartenons nous-mêmes, nous qui sommes à son image. La nature s'est donnée, mais peut aussi reprendre. À nous de veiller à ne lui point trop prendre pour éviter qu'elle ne vienne par un juste retour à se venger de nous. Rejoignant l'immémoriable tradition des hommes de ma race, je parcours dans les joies et les souffrances le cycle qui, du jardin d'Éden au jardin du paradis, jalonne les deux extrémités de notre chemin en ce monde. Long cheminement où nous progressons, accompagnés de la fête joyeuse des plantes, des cris innombrables des animaux et de la rumeur des hommes. Pourrons-nous atteindre ce terme d'un pas tranquille, en paisible jardinier amoureux de la terre, notre mère? Ou bien notre démence nous fera-t-elle manquer ce terme que notre fébrilité ne nous permettrait même plus d'entrevoir? L'avenir le dira. Quant à l'homme des plantes, il tente laborieusement d'ajuster son pas à celui des créatures amicales qui nous accompagnent, nous précèdent et nous suivent dans les jardins de la vie d'aujourd'hui, d'hier et de toujours.
Thank you.
La plante la plus gentille. Quelle est la plante la plus gentille? Drôle de question. Il doit y avoir beaucoup de candidates. Il s'agit naturellement de la plante la plus gentille dans la nature, non de celle qui nous rend le plus de service. Dans nos affaires, ici, c'est toujours de la nature qu'il est d'abord question. Nous y sommes arrivés les derniers et nous voudrions toujours y être les premiers. Or, l'Évangile n'est pas tendre avec ces premiers qui, jouant des coudes et prétendant occuper les meilleures places, se retrouveront finalement en bout de queue. Laissons donc parler la nature et, sans dévaloriser l'homme, remettons-le, quand il le faut, à sa place. Les relations entre plantes ou encore entre plantes et animaux sont immensément variées. Les échanges de services loyaux et amicaux sont innombrables. Comment faire un tri parmi les nombreuses candidates au titre de la plante la plus gentille? Après hésitation, concertation et délibération, le jury a décidé de décerner deux premiers prix ex aequo. Le premier à un acacia pour sa délicatesse à l'égard des fourmis, qui d'ailleurs le lui rendent bien, et le second à un yucca pour l'affection particulière qu'il manifeste envers un papillon. L'acacia pousse au Mexique. Son agréable commerce avec les fourmis est si spectaculaire qu'Hernandez, dans son « Histoire naturelle du Mexique », paru en 1651, décrit déjà l'affection botanico-zoologique qui lie cette plante à ses fourmis. Les botanistes l'ont baptisée « Acacia cornigera », ce qui signifie en français « porteur de cornes ». Malgré son nom, qui fait allusion à une particularité de son anatomie, cet acacia n'a nulle raison de s'inquiéter de la fidélité des fourmis à son égard. Celles-ci ont conclu avec lui un pacte d'amitié et de non-agression au bénéfice mutuel des deux espèces. Voici les termes du contrat. L'acacia offre aux fourmis de nombreuses et confortables résidences dans ses épines creuses et renflées. Jusque-là, rien que de très banal, encore que le logement des fourmis soit plus fréquemment assuré ailleurs par des cavités qu'elles creusent elles-mêmes dans les tiges ou les troncs. Ici, c'est l'acacia qui fait le travail lui-même et met un logement à la disposition des fourmis. Cette vocation de promoteur immobilier semble propre aux acacias et à eux seuls. Mais notre cornigera aime le travail bien fait. C'est un habile constructeur spécialisé dans les deux pièces, car chaque épine est séparée par une cloison et comporte deux habitacles, une chambre pour les adultes, une autre pour les bébés. L'acacia, s'il offre le gîte, offre aussi le couvert. Il prévoit pour cela des glandes distributrices de nectar disposées sur les pétioles de ses feuilles. Jusqu'à présent, rien encore de vraiment extraordinaire. Une bonne hôtellerie, voilà tout. D'autres plantes, amies des fourmis, en font autant. Il faut voir les artifices qu'elles déploient pour échapper à l'incertitude, toujours dangereuse en matière affective, et attirer à elles les fourmis par des arguments irrésistibles. Glandes sécrétrices de nectar, renflements producteurs d'essence, corpuscules succulents. Notre cornigera a choisi la troisième de ses stratégies. Au bout de ces petites feuilles, on aperçoit des corpuscules appelés corpuscules de Belt, du nom de Thomas Belt, qui les observa le premier il y a un siècle, sans rapport aucun avec l'auteur de ce livre, qui sécrète une nourriture spéciale pour les bébés fourmis, soigneusement équilibrée en protéines et en corps gras. Cette nourriture ne leur est servie que lorsqu'elle est à point. Les mamans fourmis vérifient soigneusement que le corpuscule est bien mûr. Elles le détachent alors et l'apportent à leur progéniture. En échange de ce triple service du gîte, du couvert et de la crèche, les fourmis défendent activement leur hôte contre toute attaque éventuelle. Tout ennemi qui se risquerait sur l'acacia s'expose à une riposte foudroyante. Contrat parfaitement équilibré où chacun trouve son compte. On ne voit pas comment la plante pourrait faire mieux. Elle mérite vraiment le titre de « la plante la plus gentille ». En revanche, dans ce genre d'association, il est des fourmis plus coopératives encore. Certaines, nourries par la plante, lui rendent la politesse et la nourrissent à leur tour. Elles s'associent à certaines plantes tropicales qui, vivant perchées sur les arbres, ont quelques difficultés à trouver leur nourriture. Celles-ci demandent alors une pension alimentaire aux fourmis en leur offrant en échange la possibilité de loger dans des cavités creusées dans leurs tiges. Les fourmis résidentes y accumulent de nombreux déchets animaux, notamment des larves d'insectes. En rendant ces larves radioactives, comme on l'a fait également dans le cas de plantes carnivores, on peut suivre à la trace l'absorption de ces substances animales par les tissus de la plante, car ces animaux sont bel et bien assimilés par la plante. Les fourmis nourrissent donc les plantes qui les abritent en leur abandonnant une partie de leurs réserves alimentaires. Bref, la plante puise hardiment dans le garde-manger des fourmis. Sa floraison et sa production de graines s'en trouvent grandement accrues, comme on le voit en comparant les plantes fourmilières à celles qui n'ont pas réussi à s'associer à ses collaboratrices zélées. Cet étrange cas de figure est unique dans le monde végétal. Il ne s'agit plus, comme c'est la règle, d'un animal qui se nourrit d'une plante, ni même, comme c'est le cas pour les quelques 450 plantes carnivores connues, d'une plante qui se nourrit d'un animal, mais bel et bien d'un animal qui chasse pour nourrir une plante. La plante est littéralement biberonnée par les fourmis qui s'activent à son profit avec la fébrilité dont elles sont coutumières. Bien que plus classiques, les relations amicales entre les fleurs et les insectes qui les pollinisent sont parfois émouvantes. Dans cette rubrique, c'est aux fleurs de yucca que nous avons attribué l'autre premier prix ex aequo, honorant la fleur la plus gentille. Chacun connaît les yuccas, ces plantes ornementales aux longues feuilles pointues, souvent présentes dans les parcs et les jardins. Originaires des déserts de l'Ouest américain, les yuccas, lorsqu'ils fleurissent, produisent une grande hampe florale portant de nombreuses fleurs blanches en clochette, dont les pétales ne sont pas soudés. Dans les déserts arides du Mexique et d'Amérique, des insectes vivent en étroite communauté avec les yuccas. Particulièrement bien équipés, ils possèdent un appareil spécialisé dans le ramassage du pollen, ce qui est un privilège rarissime. Le yucca offre à ces insectes un abri contre la lourde chaleur du jour. Au crépuscule, ils sortent et voltigent alentour, les mâles recherchant les femelles pour les féconder. Puis les femelles prennent la situation en main. Elles se posent sur les étamines, ramassent du pollen, en font une volumineuse boule qu'elles placent entre leur tête et leurs pattes avant. Elles s'envolent alors vers une autre fleur pour pondre. Elles entrent dans la fleur, porteuse du pollen qui a une consistance de mastic, et qu'elles ont roulé comme une boule de neige pour l'agglomérer jusqu'à ce que cette boule soit plus grosse que leur tête. Parvenue dans une fleur, la femelle manifeste autant de sollicitude pour sa future progéniture que pour la fleur hôte. Bel exemple d'altruisme. On la voit en effet se partager avec zèle entre ses rôles de mère et de pollinisatrice dans un étrange ballet parfaitement réglé. Elle commence par grimper dans la fleur pendante et pond un œuf dans l'ovaire. Puis elle se dirige vers le stigmate, organe récepteur femelle de la fleur, et y dépose du pollen. Elle revient ensuite pondre un deuxième œuf dans l'ovaire, remonte déposer encore du pollen et poursuit ce mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ni pollen à donner, ni œuf à pondre. Puis elle meurt, sans jamais voir sa descendance, ni savoir qu'elle a assuré la nourriture de celle-ci en assurant aussi minutieusement la pollinisation. En effet, chaque larve, en éclosant dans l'ovaire, consomme environ 20 jeunes graines. Le nombre de larves par ovaire dépasse rarement 6. Comme chaque ovaire comporte en moyenne 200 jeunes graines, donc 200 graines en puissance, on peut considérer en gros que les larves en laissent la moitié. Bref, l'ovaire des yuccas fait la part du feu. Il paie, comme il se doit, le service de pollinisation que lui a rendu l'insecte en nourrissant ses larves avec la moitié de ses graines. Bien plus, cette sorte de régulation des naissances qui, en éliminant certaines jeunes graines, laisse aux autres de meilleures chances de développement, est habile et utile pour la plante. Les jardiniers n'en font-ils pas autant quand ils éclaircissent un semis de radis ou de fleurs pour diminuer la compétition et obtenir de meilleurs sujets? L'insecte accomplit donc sur la fleur de yucca le travail du jardinier dans ses plates-bandes. Le service rendu par les insectes est d'autant plus évident que les fleurs de cette plante sont incapables de s'auto-polliniser spontanément en raison de la position respective de leurs organes mâles et femelles. Les étamines qui pendent vers le sol ne peuvent que répandre leur pollen par terre. Sans ces insectes, les yuccas seraient donc incapables de survivre. Au surplus, entre cet insecte baptisé Pronuba et le yucca, il s'agit d'un mariage strictement monogame, supposant une fidélité réciproque absolue, cas rarissime dans la nature. En d'autres termes, ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. Sans le concours de l'insecte, la plante est condamnée à rester stérile. Inversement, L'insecte ne peut survivre sans trouver dans ses fleurs abri et nourriture. Dans ce ménage, naturellement, chacun fait des concessions. La fleur abandonne à l'insecte un certain nombre d'ovaires et l'insecte se donne toutes les peines du monde, comme on l'a vu, pour réussir la pollinisation. Mais c'est un bon ménage, ce qui lui vaut d'avoir été sélectionné par le jury. Qui ? De l'acacia à fourmi ou du yucca à pronuba est la plante la plus gentille. À vous de choisir. Nous avons préféré les classer ex aequo. La fleur la plus rusée. Le grand botaniste américain Bastian Meuse, ainsi que l'extraordinaire chasseur d'images anglais Sean Morris, ont effectué une passionnante recension des mécanismes les plus subtils et les plus fascinants de la pollinisation. Une moisson d'observations récentes nous est ainsi parvenue, venant s'ajouter à un dossier déjà épais de plantes au casier judiciaire chargé. On connaît de longue date les ruses et les pièges, souvent incroyablement perfectionnés, déployés par les fleurs pour asservir l'insecte pollinisateur. Mais il est difficile d'opérer un tri dans ce vaste répertoire afin de porter en tête du palmarès les fleurs les plus rusées, les plus sadiques ou les plus cruelles. On constate que ces préoccupations ne semblent guère intéresser nos propres concitoyens. Pour un botaniste américain ou anglais, il n'est nullement déshonorant de consacrer des dizaines ou des centaines d'heures à observer, tapis derrière un talus, l'appareil photo ou la caméra au point, une orchidée, en vue de capter ce moment crucial de la visite du pollinisateur. Mais cet art d'observer la nature avec une infinie patience semble lié au tempérament britannique et à son flegme légendaire. Le grand Darwin ne procédait pas autrement. Un botaniste français qui se livrerait aux mêmes exercices risquerait, en revanche, d'être promptement marginalisé au sein de sa propre communauté scientifique. Les hautes instances nationales qui gèrent la science et en sont les gardiennes du temple ne lui accorderaient pas un copec pour financer d'aussi vaines recherches. Pourtant, que de prodigieux spectacles à découvrir dans l'observation modeste du moindre recoin de pelouse, de steppe ou de désert. C'est là que nous irons chercher la fleur la plus rusée du monde. La plus rusée du monde. Ici encore, il nous faut choisir parmi 1000 candidates. Nous avons retenu les orchidées Drakea, ainsi nommées en souvenir de Miss Drake, botaniste anglaise, qui semble exceptionnellement douée pour piéger les insectes et les condamner à véhiculer leur pollen de fleur en fleur. Les drakeas sont de petites herbes exclusivement australiennes, dont il existe 4 espèces très voisines qui ne se différencient entre elles que par la forme. l'allure et la couleur d'un de leurs pétales. Ce pétale spécialisé, caractéristique des orchidées, est le labelle. Pour chacune des quatre espèces d'orchidées, le labelle prend l'allure d'une femelle d'une certaine espèce de guêpe du groupe des tanidés. En somme, l'orchidée se déguise et se travestit en guêpe. Et pas en n'importe quelle guêpe, en une tinidée. Cette capacité propre à certaines orchidées de transformer un de leurs pétales en un mime d'insecte est tout à fait étrange. Nous y reviendrons. Mais les drachéas poussent l'art du mime jusqu'à ses ultimes conséquences. Ces plantes discrètes vivent en terrain sablonneux. Elles ne possèdent qu'une seule feuille et une seule fleur, portée par une tige d'environ 20 cm de haut. Orchidées, somme toute, peu spectaculaires, passant inaperçues dans le paysage australien. Le fameux labelle à allure d'insecte est fixé à l'extrémité d'un long axe flexible, d'où une forme évoquant vaguement un marteau. D'où aussi le nom d'orchidée marteau donné à ses fleurs. D'où enfin la capacité pour ce labelle en forme d'insecte de se balancer à l'extrémité de son axe sous l'effet du vent ou du moindre choc. Le problème de la pollinisation des orchidées marteaux est longuement resté un véritable casse-tête botanique. Personne n'avait jamais vu d'insectes atterrir sur ces fleurs, bien qu'elles fussent si parfaitement semblables à des insectes et donc si attractives pour eux. Car on savait déjà que d'autres orchidées, telles les ophrys par exemple, attirent par ce stratagème des mâles d'insectes qui croient y reconnaître leurs femelles et qui, du coup, à l'issue d'une frustrante visite, emportent le pollen vers d'autres fleurs. Comment expliquer alors que ces étranges orchidées marteaux ne reçoivent apparemment jamais aucune visite intéressée? Bien plus, de nombreuses orchidées marteaux restent non fécondées, ce qui confortait dans l'idée que ces plantes devaient avoir de sérieux problèmes sexuels. N'était-on pas allé jusqu'à imaginer qu'elles pouvaient être pollinisées par le vent? Y a-t-il pire outrage pour des fleurs que la nature s'ingénie depuis des millions et des millions d'années à adapter toujours plus finement à la pollinisation par les insectes? C'était faire là une erreur grossière, comme l'a montré récemment Mrs. Erickson, en parvenant, après de patientes observations, à décrypter le mode de pollinisation de cette étrange orchidée marteau. L'agent pollinisateur de ce marteau flexible est une guêpe du groupe des tinidés. Ces guêpes sont des parasites de larves de scarabée qui parasitent elles-mêmes des racines. Ces parasites au second degré, en quelque sorte. Lesdites larves vivent donc entièrement enterrées et les guêpes, pour s'en nourrir, doivent également s'organiser pour la vie souterraine. Du coup, les femelles abandonnent leurs ailes, transformant leur capacité de vol en aptitude à vivre dans des galeries de mines. Les ailes sont évidemment des organes inutiles et encombrants pour creuser des tunnels. Ces guêpes femelles ne peuvent donc plus voler, ce qui, au moment de la reproduction, devient un handicap majeur, car les mâles, eux, ont conservé le mode de vie de leurs ancêtres et ne vivent pas sous terre. Aussi, est-ce le mâle qui, le moment venu, va prendre ses responsabilités pour pallier le lourd handicap de sa femelle? Quand celle-ci émerge de terre, pressée par l'instinct de reproduction, elle grimpe au sommet d'une plante et s'installe dans une position visible et accessible, émettant une substance chimique appelée d'appel, baptisée phéromone sexuelle, plus prosaïquement un parfum d'amour. Les mâles, en patrouille aérienne permanente, répondent à cet appel en forme d'effluve parfumée. La femelle ayant choisi une situation très en vue, au sommet de sa tige, le mâle se précipite sur elle et l'arrache littéralement à son support. La femelle s'agrippe à lui par ses mandibules et le couple s'envole un peu comme un bombardier portant un missile sous son ventre. Le mâle est nettement plus gros que la femelle. Mâle et femelle copulent ainsi longuement en cours de vol, le mâle promenant la femelle de fleur en fleur. Celle-ci se nourrit du nectar des fleurs qu'elle n'a jamais connues jusque-là, puisqu'elle n'a vécu qu'emprisonnée dans ses galeries souterraines où elle s'est repue de larves de scarabées. Ce vol nuptial est donc aussi un épisode gastronomique, quelque chose comme un long repas de noces qui peut durer jusqu'à 24 heures. Puis, le mâle ramène la femelle dans un endroit riche en scarabées où elle pénètre dans le sol pour y poursuivre sa vie obscure et y mourir. Or, les orchidées marteaux tirent astucieusement parti de ce comportement comme si elles l'avaient minutieusement observé puis décodé. Elles modifient leur labelle de telle sorte qu'il ressemble exactement à une petite femelle tinidée, bien rebondie et émettant l'odeur exacte de la phéromone émise par la vraie femelle. Cette fausse femelle se trouve à l'extrémité d'un bras court qui peut se balancer de haut en bas avec le vent. La colonne abritant les organes sexuels se trouve exactement dans l'axe de ce bras, à l'arrière de la fleur. Les mâles de tinidés se précipitent sur ces fausses femelles, mais ne réussissent pas à les arracher, et pour cause de leur support. Ils se balancent alors pendant quelques instants, frappent la colonne porteuse de pollen et finalement quittent la fleur revêtue de celui-ci. Comme l'action se déroule en moins d'une seconde, on conçoit qu'on ait vraiment fort peu de chances de saisir la scène. Car la visite s'effectue en piqué et l'insecte, abusé, quitte promptement le mime, emportant le pollen avec lui. De surcroît, chacune des quatre espèces d'orchidées marteaux n'est fécondée que par une espèce de guêpe particulière. Il s'établit ainsi des couples fidèles et monogames entre une espèce d'orchidée et une espèce de guêpe tinidée. Cette stricte fidélité est due à la spécificité des hormones sexuelles odorantes émises par les labelles mimétiques et qui n'attirent que les mâles des espèces appariées. Pour que le piège fonctionne sans accroc, la nature s'arrange, en outre, pour ne faire sortir du sol des vraies femelles qu'après la floraison des orchidées marteaux, de sorte que les mâles, sortant les premiers, ne trouvent au cours de leur promenade que des fausses femelles, c'est-à-dire des labelles mimétiques qui sont alors leurs seuls partenaires. Ainsi, ces fleurs sont-elles les seules à attirer l'attention des mâles, et l'histoire ne dit pas quel est le degré de frustration qu'ils peuvent en éprouver. La nature ici n'invente pas seulement un piège extraordinaire pour guêpes en chaleur. Elle enchaîne de surcroît une espèce de guêpe à une espèce de fleur. Association stricte et rigoureuse, véritable mariage pour le meilleur et pour le pire. Bref, les orchidées marteaux battent sans doute un record de ruse, mais elles battent également un record de fidélité, car ce type d'association strictement monogame entre une fleur et son pollinisateur, nous l'avons vu chez les yucca, est extrêmement rare dans la nature. Moyennant quoi, les orchidées marteaux ne font jamais d'hybride, puisque le pollen d'une espèce n'est jamais véhiculé par l'insecte que sur une fleur de la même espèce. De ce fait, l'espèce reste pure de toute contamination étrangère, et l'ensemble forme un petit monde hermétique où nul n'est convié à mettre son nez, si ce n'est l'herbivore brouteur ou le botaniste observateur. Même au fin fond de l'Australie, une plante n'est jamais seule. C'était Page d'Histoire, lue dans le livre de Jean-Marie Pelt, Mes plus belles histoires de plantes, le livre de poche pratique, Fayard, 1986, accompagné par le String Quartet, l'Adagio Tempo di Gavotta et le Scherzo d'Alexandre Mosolov, 1900-1974, sur Radio Valois-Mulsien 93.7.